C'est avec plaisir qu'on le retrouve pour cette nouvelle année. Salut David Gauthier.
Ben bonjour Valérie Ferland, comment vas-tu?
Eh bien, ça va bien, moi j'ai pas à me plaindre, puis on en a tellement parlé là cet automne. T'as eu 40 ans toi le 2 janvier, David?
Eh oui, j'ai survécu à ça Valérie, je suis toujours là. Et comme je t'ai dit avant de rentrer en onde, mon petit bonhomme m'a tout remis ça en me disant « Papa, t'es confortable ». Donc j'ai dit « Ben coudonc, t'as raison, on est bien, donc je me plains plus, j'ai 40 ans, j'ai traversé ça Valérie, puis... On affronte 2021 comme on a fini 2020, finalement. On a fait de rester en santé.
Puis là, il voulait te dire t'es confortable, pas parce qu'il t'a poussé une bédaine pendant le temps des fêtes, là.
Non, pas du tout. Je venais de dire que c'était malheureux parce que j'avais 40 ans, mais il m'a dit, mais tout comme ça. On a un toit, on a de la nourriture, on a tout ce qu'il faut. On est en santé, donc il n'y a rien de grave là-dedans. Les enfants nous remettent ça assez simple, hein? Et c'est la beauté de la chose. Alors, j'ai 40 ans, je suis toujours en forme.
Bon, on est bien content. On sait que t'as quand même des pharmacies à gérer. Alors ça, c'est pas évident en ce contexte. 2021, c'était l'année de l'espoir avec l'arrivée du vaccin. C'est un petit peu la continuité, là. On va souhaiter que ça s'améliore. De toute façon, faudra être patient. Ça sera pas tout de suite, là, dans le début de l'année. Et là, on apprenait aujourd'hui que la première dame qui a été vaccinée a attrapé quand même la COVID.
Oui, et je tenais à t'en parler un peu, Valérie, parce que, évidemment que ça frappe l'imaginaire de dire ça, et je trouve qu'ils font un gros titre avec ça. Et je pense que c'est important qu'on se rappelle un peu, moi puis toi, les facteurs qui influencent l'efficacité d'un vaccin, et que ce soit la COVID ou que ce soit autre chose, un autre vaccin, le temps et l'âge affectent l'efficacité d'un vaccin. Et dans le cas qui nous préoccupe, premièrement, là, quand on s'est vacciné, et que ce soit pour la grippe ou pour le COVID, il y a un temps pour acquérir l'immunité, donc un temps pour qu'on développe nos anticorps. Donc, et là, je suis pas dans le secret des dieux, mais je veux dire aux auditeurs une chose, ça veut pas dire que le vaccin n'est pas efficace. C'est peut-être qu'elle a attrapé la COVID dans les jours qui ont suivi sa vaccination, donc le premier 10 à 14 jours que ça nous prend de base pour acquérir l'immunité n'était pas fait. Ça, c'est la première des choses, donc le temps est un enjeu. Et l'autre chose, cette dame-là avait un certain âge. Donc, on avait parlé ensemble, c'est que plus on est avancé en âge, plus notre potentiel, notre capacité à développer nos anticorps peut être affaiblie. Donc, est-ce que les personnes âgées, au lieu d'avoir 90% d'immunité, vont en avoir un petit peu moins? Puis, on peut dire n'importe quoi. Est-ce que c'est 70? Est-ce que c'est 75? Il y a quand même une immunité qui se crée et espérons aussi que les symptômes soient moins sévères. Mais c'est quand même des choses à retenir parce que c'est bon pour le vaccin de la COVID et c'est bon pour les autres vaccins. Ça veut surtout pas dire que ce vaccin-là n'est pas efficace. Donc, je voulais quand même juste remettre un peu les pendules à l'heure et quand on lit ce genre d'article-là, de prendre un peu de recul puis de l'évaluer avec une certaine notion scientifique et un certain jugement.
Puis, on le dit aussi, c'est pas parce qu'il y a un vaccin qu'il faut délaisser les mesures et c'est pour ce genre de situation-là, justement.
Ben oui, puis loin de là, là, c'est-à-dire que, tu sais, on sait même pas encore à quel point que le fait de vacciner les gens va empêcher les gens de transmettre la maladie. On sait que ça va empêcher les gens de développer les symptômes, mais on sait pas, en date d'aujourd'hui, ça va empêcher la transmission des gens qui sont asymptomatiques. Donc, c'est pour ça qu'on va dire aux gens de continuer à porter le masque en attendant qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui soient immunisés par le vaccin. Donc, on en a encore pour plusieurs mois, tant qu'à moi, porter le masque et à faire attention. Donc, continuons de nous protéger, mais sur certaines, il y a une lueur au bout du tunnel, on s'en va dans le bon chemin.
On va changer le mal de place, parce que ton sujet d'aujourd'hui, ton sujet principal, c'est l'eczéma.
Oui, et hey, puis j'ai dit, Valérie, moi, je vais me faire un devoir de nous changer les idées. Et pourquoi l'eczéma? C'est parce que, évidemment, avec le temps froid, et le chauffage, c'est une période faste pour ça. Et les gens qui souffrent d'eczéma, ben, ils ont peut-être le goût d'en entendre parler. Pour se le rappeler, l'eczéma, c'est une maladie inflammatoire de la peau, évidemment qui va causer une sécheresse cutanée, qui va causer des plaques rouges, la démangeaison, et parlez-en aux gens qui en souffrent, ça démange. Puis ces plaques-là, Valérie, là, peuvent finir par suinter, s'écailler, former des croûtes. Vraiment, d'une personne à l'autre, l'impact peut être léger, peut être grave et faut quand même être sensible à ça parce que les gens qui font beaucoup d'eczéma, ça peut devenir super fatigant d'une journée à l'autre et on a juste à penser aux endroits qu'on peut faire de l'eczéma. Je sais pas, Valérie, tu as déjà fait de l'eczéma, mais les gens qui ont ça dans le visage, puis vraiment, c'est des endroits typiques, hein, les mains, le visage, les plis cutanés, donc les coudes, les genoux, Quand on en a, quand on en a beaucoup, faites juste penser en ce moment, si le visage vous pique puis vous mettez ses mains, juste avec les mesures qu'on a sanitaires, ça peut devenir d'autant plus compliqué.
Non, David, moi j'ai choisi ma maladie, moi j'ai choisi l'urticaire. mais je peux comprendre un peu l'eczéma, là, ce que ça peut donner comme gros inconvénient et inconfort, bien sûr.
Ben oui, puis tu sais, dans les causes, là, Valérie, c'est drôle parce qu'en ce moment, malheureusement, le stress étant la cause de bien des maux, quelqu'un qui vit un stress peut avoir une phase aiguë d'eczéma, ça c'est certain. Puis en plus, on est en hiver, donc la période froide peut causer le problème et le chauffage aussi. Il y a une tendance génétique à ça, malheureusement. Donc les gens qui en ont dans leur famille ont plus de chances d'en souffrir. Et ça vaut la peine quand même de dire que le soleil, le tabac, c'est aussi des facteurs de risque d'augmenter l'eczéma. Là, je vais être plate un peu, l'eczéma, Valérie, ne se guérit pas. OK? Mmh. Ça se traite, mais ça ne se guérit pas. Comment le traiter? De base, on utilise des crèmes hydratantes. Des crèmes hydratantes sur le marché, en voulez-vous, en voilà. Il y en a beaucoup, beaucoup sur les tablettes. Première des choses à dire, c'est que quand vous vous hydratez avec ces crèmes-là, c'est important de le faire deux fois par jour minimum, donc matin et soir. Et je mets l'emphase aussi sur l'appliquer de la crème après le bain. Parce que quand le bain ou la douche, parce que quand on sort du bain ou de la douche, même si on s'essuie, il y a quand même des particules d'eau qui restent en surface de la peau. Et ces crèmes-là ont des ingrédients à l'intérieur qui vont permettre de capturer l'eau à la surface de la peau. Donc, ça va permettre d'hydrater la peau encore plus. Je vous conseille de faire attention aussi dans les produits que vous allez choisir, d'avoir des crèmes qui sont hypoallergènes, qui sont non parfumées. Et il y a les lotions, il y a les crèmes, il y a les onguents. Ça peut devenir super mêlant. La lotion, juste pour vous dire rapidement, la lotion a plus d'eau que la crème et la crème a plus d'eau que l'onguent. Donc, l'avantage d'une lotion versus un onguent, c'est que la lotion va mieux s'étendre. Donc, surtout sur des surfaces où il y a de la pilosité, donc sur un bras avec du poil, bien, la lotion va être beaucoup plus facile à étendre qu'un onguent, mais la lotion va être moins hydratante. Donc, c'est un choix qu'on a à faire. Si on a des endroits qui sont plus irrités, plus rouges, plus secs, peut-être que des fois, la crème et l'onguent vont être plus appropriées. Ou si c'est une application qu'on veut faire au niveau plus corporel, plus facile à étendre, la lotion va être aussi là plus appropriée. Dans les autres traitements qu'on a, la fameuse cortisone, la cortisone qui des fois se sert, moi je pense qu'il faut pas avoir peur de la cortisone, il faut juste faire un choix adéquat, c'est-à-dire que c'est pas toutes les surfaces du corps qui vont mériter de la cortisone. On va garder la cortisone pour des endroits qui sont plus inflammés, plus rouges, et la cortisone a différentes puissances, donc il y a différentes puissances, il y a différentes textures encore là. La puissance, il y en a qui sont très, très fortes, il y en a qui sont moins fortes, donc il faut la choisir selon l'endroit. Évidemment, quand c'est dans le visage, on va choisir une puissance de cortisone qui va être moins forte. Mais si c'est sur le bras, si c'est sur les jambes, on peut se permettre d'aller avec des cortisones plus fortes et encore là, d'aller traiter de façon plus efficace. Dans les textures, c'est encore le même choix. Là, si on crème et onguent, à retenir que pour la même molécule de cortisone, un onguent va être plus puissant qu'une lotion. Donc, c'est le genre d'information qui peut nous guider dans notre choix. Et attention au pourcentage. Il y a beaucoup des patients qui vont dire, ben, j'ai une crème de 1%, c'est sûr qu'elle est plus forte que la 0,1%. Ce n'est pas vrai. C'est la molécule qui va nous guider. Donc, la molécule de cortisone à l'intérieur de votre crème, des fois, elle est à 0,1% et elle est drôlement plus puissante qu'une autre à 1%. Donc, c'est important de s'informer comme il faut. Et c'est important, une fois que vous avez une crème à la maison qui a été prescrite par un médecin, de ne pas l'utiliser pour une autre indication sans nous en parler, sans de savoir exactement c'est quoi et ce qu'on doit faire avec. Je termine avec une chose, les antihistaminiques. J'en ai parlé souvent avec toi, Valérie, mais dans des cas d'eczéma, ça devient hyper intéressant. C'est que les antihistaminiques, comme le Benadryl, comme le Réactine, le Claritin, ont un effet pour diminuer les démangeaisons, donc anti-prurie. Donc ça peut devenir super intéressant, surtout au coucher, entre autres pour le Benadryl, mais quand ça pique beaucoup, ça peut diminuer les démangeaisons, puis évidemment que ça devient super utile dans notre arsenal thérapeutique pour les gens qui souffrent d'eczéma ou de différentes conditions de la peau, là, exemple des dermatites atopiques là, qu'on pourra reparler une autre fois, mais quand que ça démange, les antihistaminiques deviennent bien intéressants.
Mais David, si on a des questions, on peut aller te voir chez Brunet. T'es fort, t'es encore là, puis tu tiens tes employés comme ça. On fait des pep talks, j'imagine, une fois de temps en temps.
On essaie d'augmenter le moral des troupes, mais on est là pour notre clientèle, ça c'est certain.
Alors, c'est parti. Puis, c'est ça. Tant qu'on ne pourra pas se voir, on va se parler au téléphone.
Ben oui. Hey, sais-tu quoi? On était plus drôle quand on se voit. Fait qu'on se verra plus tard dans l'année.
On va avoir du plaisir.
C'est beau, Valérie.
Merci, David. Moi, je vais aller me gratter. Puis, on se reparle la semaine prochaine.
Désolé.
Salut.
Ça, pas déclencher ça chez toi. Désolé, Valérie.
Salut.